Bonjour. 150 citoyens tirés au sort ont donc accouché de 146 propositions visant à réduire le bilan carbone de la France. Alors, les réactions politiques et médiatiques ont été assez conformes à ce qu'on pouvait en attendre, certains trouvant que les citoyens n'étaient pas allés assez loin, les autres criant déjà à la dictature verte. Nous allons donc revenir sur ces réactions, mais surtout, nous allons tenter de tirer un bilan de cet exercice de démocratie inédit à cette dimension, avec trois invités. Juliette.
Cyril Dion, vous êtes réalisateur engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Vous êtes ici aujourd'hui car vous avez été le garant de la Convention citoyenne pour le climat. Et on vous avait d'ailleurs reçu quelques semaines avant le début de cette convention. Donc on peut dire que la boucle est bouclée. Hugues-Olivier Brillouin, vous êtes photographe. Vous avez été l'un des 150 citoyens et citoyennes tirés au sort pour participer à cette convention. On vous a pas mal vu passer dans les médias, notamment locaux, où avant le début de la convention, on vous présentait plutôt comme un climato-sceptique. Et par visio, on a Marine Rogowitz, qui vous êtes également une citoyenne de la Convention. Vous êtes, vous, étudiante en administration économique et sociale à Metz.
Voilà. Et avec vous, Juliette, qui vous êtes glissée dans les coulisses de cette Convention, on essaiera de savoir si, comme un certain nombre de critiques vous en ont accusé, Cyril Dion, vous avez lavé la tête des 150 pour les convertir à l'écologie.
– C'est bien, parce que quand j'avais été invité ici… On m'accusait du contraire. C'est-à-dire qu'on disait qu'il y avait une femme de l'industrie minière qui était dans le comité de gouvernance, et donc c'était la preuve que les lobbies avaient infiltré. Donc bon.
On fera le point sur tout ça. Alors, 6 mois de travaux, et la commission a été clôturée par vous-même et par Mathilde Himmer dans un grand moment d'émotion filmé par Yann Arthus-Bertrand.
Quand on est sorti de ce bureau et qu'on se regardait tous les deux dans la cour de l'Élysée, on se disait, mais ça n'arrivera jamais, c'est impossible, jamais ils auront le culot de faire ça. Et 14 mois plus tard, non seulement ça s'est passé, mais en plus, vous avez été incroyable. C'est-à-dire que vous êtes quand même hyper gonflé. Parce que non seulement en 9 mois, vous vous êtes formé, vous avez appris sur le sujet, vous avez fait des propositions qui sont plus ambitieuses que ce que n'importe quel gouvernement français a jamais fait sur le sujet.
Alors, c'était bien 9 mois et pas 6. Alors là, ce qu'on vient de voir, c'est la clôture de la Convention. Depuis, il y a eu sa réception par Emmanuel Macron, il y a eu un certain nombre de réactions politiques, de réactions médiatiques, il y a eu les fameux jokers de Macron, on va en parler. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui, plusieurs jours après cette réception politique, plutôt encore sous le coup de l'émotion, satisfait et heureux, ou déjà retombé sur terre et à vous dire que ça va pas être si simple ?
Ça, je pense qu'on se le disait déjà, enfin, et on pourrait regarder l'émission qu'on avait fait ensemble, on se disait déjà que ça serait pas simple et que ça serait un rapport de force. Donc c'est relativement conforme à ce qu'on imaginait.
Et aujourd'hui ?
Moi, je suis passé par tous les états. C'est-à-dire que, moi, contrairement à vous, apparemment, je ne m'attendais pas à ce que les réactions médiatiques, par exemple, soient aussi violentes. Je ne m'attendais pas à voir Yves Calvi dégoiser sur les Khmers verts, la dictature écologique, les chaînes en boucle tournées avec des éditorialistes qui étaient d'une violence inouïe.
On va voir quelques extraits. Oui.
Et ça a été la même chose pour les élections municipales qui étaient un peu dans le même tempo. On a entendu dire des gens, si le candidat écologiste arrive au pouvoir à Lyon, c'est comme Hitler. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a remué malgré tout ?
Ça, et alors, qu'est-ce que vous avez remué ?
Ben, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, et ça me l'a encore confirmé quand j'ai entendu Jean Castex à l'Assemblée nationale, il a dit, je suis pour la croissance écologique et je ne suis pas pour la décroissance verte. C'est la première fois que j'entends un Premier ministre se justifier sur la croissance, c'est-à-dire essayer de justifier la croissance et en même temps se défendre de la décroissance. Donc je me dis que quand on commence à combattre une idée comme ça, c'est qu'elle fait partie du débat. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que ce que la Convention a fait, au-delà de proposer des mesures, donc 149 mesures, dont 146 seraient retenus, c'est de mettre le sujet vraiment au cœur du débat. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, c'est plus des écologistes un peu comme moi, chevelus, barbus, qui en parlent. C'est des Français comme n'importe qui. Et ça, c'est un grand changement. Et ce qui était très frappant d'ailleurs, c'est la distorsion qu'il y avait entre les éditorialistes d'un côté et d'autre part, une espèce de point d'équilibre qu'on avait dans la société qui était à la fois celui de la Convention, si on croit que l'exercice a été bien fait, et moi je confirme qu'il l'a été, c'est-à-dire qu'on a vraiment tiré au sort des personnes qui sont vraiment venues se mettre au service de l'intérêt général pendant un moment et qui n'étaient pas des militants, pas du tout. Enfin, cette critique-là, elle est absurde, il suffit de passer un peu de temps sur Internet à regarder les débats qui sont encore en ligne pour s'en rendre compte, et les sondages qui ont été faits les jours suivants, où on a vu que d'une certaine manière, à part le fameux 110 km/h qui a été le point de cristallisation, et là encore, il y a eu un jeu un peu des médias pour mettre en avant ce truc-là, les mesures que proposait la Convention étaient globalement très largement acceptées par les personnes sondées.
Alors, un citoyen qui n'est ni chevelu ni barbu, vous étiez présenté par un certain nombre de journaux comme un climato-sceptique avant la Convention.
Oui.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne croyez pas au changement climatique? Vous ne croyez pas à l'époque à la responsabilité humaine dans le changement climatique?
Alors, je ne croyais pas à la responsabilité humaine globale du changement climatique. Je savais qu'il y avait le changement climatique, mais moi, je me basais sur des études scientifiques suivant la courbe du soleil. Donc moi, je m'étais dit…
Suivant la courbe du soleil.
Oui, c'est-à-dire que il y a certains scientifiques qui sont plutôt réchauffistes à cause du soleil. Et donc, moi, je me disais, à la suite de ces études, que l'homme ne peut pas faire grand-chose. Il peut évidemment modifier et… Oui, il peut modifier ses comportements, mais ce ne sera pas grand-chose face à la puissance du soleil. Et en réalité, donc à la première session, j'ai eu la démonstration qu'en 200 ans, en fait, c'était l'homme qui avait été responsable le plus des gaz à effet de serre, de l'émission des gaz à effet de serre. Donc, je me suis retourné sur moi-même, en fait. Je ne suis pas un converti à l'écologie, parce que, d'abord, je suis allé dans cette convention parce que, justement, ce n'était pas quelque chose d'un parti politique. C'était, justement, comme a dit Cyril, des gens issus de tous les horizons. Mais l'écologie, je la vis depuis l'enfance. Et voilà.
– Vous habitez en Touraine ?–
Non, j'habite en Touraine, mais j'ai habité dans plein d'endroits de France… Et pour moi, la pollution, voilà, j'ai essayé dans toute mon existence de jamais polluer.
– Alors, on va revenir en détail sur ce qui a pu vous faire changer dans les travaux de la Convention. Marine Cyril Dion disait qu'il était surpris par la violence des réactions médiatiques aux travaux de la Convention. Et vous ?–
Alors absolument. J'étais même un peu déçue, finalement, que ça prenne cette tournure. Que les médias cristallisent le débat autour de seulement une seule mesure, alors qu'on avait fait plein d'autres choses. Et donc, du coup, j'étais très déçue de tout cet engouement pour une seule chose, finalement, qu'on avait décidée. Et la tournure que ça a pris. Donc, bon, après, c'est comme ça, c'était le jeu. Hein. On savait très bien qu'on allait se faire taper sur les doigts, qu'une ou plusieurs mesures allaient en ressortir et allaient pouvoir faire mal et faire parler beaucoup. Donc voilà, on s'y attendait, mais c'est vrai que c'était quand même assez... ça fait quand même quelque chose d'assez décevant, finalement.
Cette seule mesure, c'est la fameuse limitation à 110 km/h sur les autoroutes, donc mesure qui fait partie des trois jokers d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire une mesure qu'il a décidé de ne pas retenir, dans un discours qu'il a tenu devant vous, dans le parc dans le décor verdoyant du parc de l'Élysée, hein, ce qui n'était sans doute pas...
C'était
extraordinaire sans doute pour vous, mais oui. Du point de vue de l'effet d'image, c'était sans doute pas innocent de sa part de montrer du vert à l'écran, on va dire. On l'écoute.
Je vous confirme ce matin que j'irai au bout de ce contrat moral qui nous lie, en transmettant effectivement la totalité de vos propositions, à l'exception de trois d'entre elles, les trois jokers dont nous avions parlé en janvier, que je suis en désaccord, j'avais dit que j'avais quelques jokers, avec la taxe de 4% sur les dividendes que vous proposez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réorienter une partie des investissements vers des investissements plus verts. Mais mettre sur tous les investissements une taxe, c'est réduire notre chance d'attirer des investissements supplémentaires. Jamais, me semble-t-il, la transition écologique ne doit se faire au détriment des communes, des régions qui sont les plus enclavées. Et c'est pour cela, deuxième joker, que je crois qu'il faut reporter le débat sur les 110 km/h. Vous proposez ainsi de réécrire le préambule de la Constitution en plaçant l'environnement au-dessus de nos valeurs, de nos autres valeurs fondamentales. Comme je vous l'ai dit en janvier, de là où je suis garant de nos institutions. Et mon rôle, c'est de veiller à tout ce qui pourrait mettre en cause l'équilibre des pouvoirs et les valeurs qui fondent la République. Or, tel que proposé, la rédaction pour le préambule menace de placer la protection de l'environnement au-dessus des libertés publiques.
Alors, très clairement, comme je vous l'avais dit en janvier, dit-il, dans le contrat de départ, c'était, entre guillemets, sans filtre. Mmh. C'est-à-dire que les propositions des 150 seraient soumises sans filtre, ou bien au Parlement, ou bien au référendum. Est-ce qu'il y a rupture de contrat ?
Oui. Enfin, ces trois propositions-là, déjà, il n'avait pas dit trois jokers en janvier. Il avait dit, il y a peut-être des propositions que je choisirais d'écarter. Donc, à ce moment-là, on avait déjà eu une petite alerte.
Janvier, ce n'était pas le début. Le début, c'est non. À l'automne.
Non, mais il était venu parler à la Convention en janvier.
Mais le contrat que vous concluez, c'est à l'automne.
Le contrat, en l'occurrence, c'était le 25 avril, quand il annonce la création de la Convention. Il prononce ce mot de sans filtre en disant « je reprendrai les propositions ». Donc ensuite, il y a eu une discussion qui s'est engagée et avec Édouard Philippe, et avec Élisabeth Borne, et avec Emmanuel Macron, pour définir ce qu'était le sans filtre.
Il faut déjà définir ce qu'est le sans filtre, d'accord.
Donc ils nous ont dit, d'accord, ok, sans filtre, mais pour que ça soit sans filtre, il faut que la rédaction des propositions soit suffisamment précise, qu'elle fasse l'objet d'une transcription légistique, qui nous donne la possibilité de la soumettre directement.
En l'occurrence, 110 km/h sur autoroute, c'est précis.
Oui, c'est absolument précis. La rédaction, alors bon, la rédaction du préambule de la Constitution, l'excuse est de dire que ça serait anticonstitutionnel. C'est pas impossible que le Conseil constitutionnel décide de retoquer ça, étant donné la façon dont on aborde les choses pour le moment. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore au stade où donner des droits à la nature est quelque chose d'évident dans la société française.
Ce qui n'est pas une raison pour ne pas essayer.
Ce qui n'est pas une raison non plus pour ne pas engager un débat sur la question en se disant, est-ce qu'on peut assurer la liberté publique et garantir les libertés publiques dans une planète qui s'est réchauffée, sur une planète qui s'est réchauffée de 5 à 7 degrés. Ce n'est pas du tout certain. Donc finalement, garantir que les écosystèmes sont préservés, c'est aussi garantir que les êtres humains qui vivent dans ces écosystèmes peuvent continuer à vivre libre. Bon,
mais ils ont pas ce courage-là. Aujourd'hui, les jokers, vous les acceptez ou pas ?
Moi, je n'ai pas à les accepter ou à ne pas les accepter. La Convention va répondre officiellement au mois de septembre, puisque c'est prévu dans le processus qui est la réponse à la réponse. Moi, en tant que garant, je dis clairement, théoriquement, il n'y a pas de joker. Enfin, dans le contrat de départ, il n'y a pas de joker.
Théoriquement.
Non, enfin, tel que ça a été engagé au départ, il n'y avait pas la possibilité de mettre des croix sur un certain nombre de propositions.
Marine Rogowitz, les jokers, c'est une rupture de contrat ?
Oui, quelque part, c'est une rupture de contrat. Moi, je n'avais pas souvenir en janvier qu'il avait parlé de trois jokers. Donc, ça m'a un peu surpris. Mais ce qui me déplaît surtout, c'est le fait qu'il n'y ait pas finalement que trois jokers qui ont été utilisés. Il y en a beaucoup plus que ça, notamment sur le moratoire pour la 5G, notamment pour... il y avait d'autres choses comme ça, où on voyait que finalement, on n'était pas soutenu.
Et c'est tout ça, moi, qui me...
Hugues-Olivier Brillouin, sur les jokers.
Moi, je suis un petit peu de l'avis de Cyril et de Marine. Moi, je pensais qu'il y avait peut-être une interrogation sur le référendum ou pas le référendum. Moi, j'avais plutôt compris ça comme ça au mois de janvier. Je ne pensais pas que... Moi, j'ai beaucoup soutenu et j'ai porté la modification du préambule, non pas pour limiter la liberté justement de l'homme, mais justement pour que l'homme soit plus libre dans une nature plus préservée.
Alors, attendez, la modification du préambule de la Constitution, oui, ça consistait précisément à ajouter quelle phrase ?
En fait, c'était pour hiérarchiser les droits.
C'est-à-dire ?
Eh bien, c'était si dans un projet, la nature n'était pas préservée, eh bien, la nature avait plus de droits que l'entreprise, le projet de l'entreprise. Voilà.
C'était ça, la phrase exacte qui était proposée ?
Non, sûr, la phrase exacte, alors, c'est...
Bon, bah alors, personne autour de cette table
ne se souvient...
On l'a écrite pour
de la phrase exacte qui était proposée, dans la substance, c'était quand même de dire que les droits de la nature pouvaient même justifier certaines atteintes aux libertés fondamentales.
On conditionnait... Enfin, la proposition des citoyens était de conditionner les droits humains à la préservation de l'environnement.
Voilà.
Ce qui, effectivement, opère une espèce de renversement de valeurs.
Qui est assez radical.
Qui est assez radical. Pour autant, la conversation qu'il y a eu entre les citoyens pendant...
Alors, attendez, voilà, Adèle Bello nous a... Allez-y, Juliette.
La conciliation des droits, libertés et principes qui en résultent ne saurait compromettre la préservation de l'environnement, patrimoine commun de l'humanité.
Ça, c'était la proposition.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on considère que les activités humaines ne peuvent pas avoir une prééminence sur la préservation des écosystèmes.
Implique les critiques de restreindre à la liberté d'entreprendre, en fait.
Oui,
et à d'autres éventuellement.
Et à d'autres,
mais le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, c'est toujours le droit humain qui prime, et au-delà du droit humain, au-delà de la liberté, c'est surtout l'économie qui prime. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez creuser une mine pour créer des emplois, pour fabriquer des smartphones ou je ne sais quoi, ça prime. Alors que si on regarde les choses en dézoomant un peu, peut-être qu'on va créer une situation qui va conduire à des pollutions catastrophiques, à des cancers, à des êtres humains qui vont être en danger à cause de disparition d'écosystèmes, de déstabilisation climatique. Tout ça, aujourd'hui, ne rentre pas, absolument pas dans le champ juridique. Et l'objectif de la transformation de la Constitution, c'est qu'il puisse y avoir des recours auprès de juristes, mais aussi auprès de juges constitutionnels, qui puissent casser des décisions, notamment
C'est effectivement une mesure très importante, et peut-être même beaucoup plus importante que le fameux 110 km/h, on va en parler. Oui,
ça, c'est sûr. Oui, mais... Pourquoi on a demandé la modification du préambule et de l'article 1 ? C'est parce que nous sommes dans une situation où la liberté d'entreprendre, la liberté de l'homme a été telle qu'il a mis l'argent à la première place au lieu de mettre la vie. Et donc la terre et l'écosystème en pâtit. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Soit la vraie question, c'est est-ce qu'on limite l'émission de gaz à effet de serre, est-ce qu'on doit le faire ? Si la réponse est oui, eh ben, il faut faire quelque chose. Et comme la Constitution, pour l'instant, ne nous protège pas contre, justement, ce réchauffement climatique, ben, il faut faire... Voilà.
– Alors, un mot à propos encore de l'accueil d'Emmanuel Macron sur la fameuse histoire de question des référendums. Alors, on n'a absolument rien compris. Le 29 juin, il était question de référendum, on l'écoute.
Mais si les choses ne devaient pas avancer assez vite, dans le cadre du suivi auquel je veux vous associer, et si nous pensons que c'est pertinent, je souhaite laisser ouverte la possibilité, en 2021, de procéder à un référendum avec plusieurs questions.
Un deuxième référendum par rapport à un premier référendum qui aurait lieu en 2020. Et le 14 juillet dernier, il y a quelques jours, il semblait n'y avoir plus qu'un seul référendum. On l'écoute.
La seule question sur laquelle il peut y avoir un référendum, compte tenu des demandes qui ont été faites par les citoyens de la Convention citoyenne, est une réforme constitutionnelle.
Vous avez compris ? Il y en aura un, il y en aura deux, il y en aura zéro ?
Oui, je comprends ce qui
est... Vous comprenez quoi alors ?
Les citoyens ont demandé trois référendums. Un sur les deux modifications constitutionnelles. Donc comme il en a écarté une, il en reste un, qui est celui dont il parle là.
Le premier.
Référendum pour modifier l'article 1er de la Constitution. Pour pouvoir opérer un référendum, tel que donc c'est l'article 89, je crois.
De la Constitution actuelle,
oui. Oui, parce qu'il y a l'article 11 qui lui permet de déclencher un référendum directement, et l'article 89, quand c'est sur des modifications constitutionnelles, je crois que c'est 89, ça doit passer d'abord par les deux chambres. Donc la proposition de référendum doit d'abord être validée par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Donc ça c'est ce qui va engager. Et ensuite, le 14 juillet, il a dit « Je me réserve la possibilité de faire un référendum sur les grands sujets qui ont été proposés par les citoyens. »
Le 29 juin.
Le 29 juin.
Je suis rassuré, je suis pas le seul.
Donc le 29 juin, donc ce jour-là, là, c'est ce qu'on voit à la télé, il a dit qu'il se réservait la possibilité de faire un autre référendum sur les propositions qui ont été faites par les 150 citoyens si le travail parlementaire ne va pas assez vite. Donc en le mettant comme une espèce d'épée de Damoclès au-dessus des parlementaires, en disant si vous ne faites pas suffisamment avancer le sujet, on fera passer par référendum.
Et le 14 juillet, il explique que finalement, on ne peut plus.
Non.
Ah ben si, il dit la seule possibilité, c'est sur des questions constitutionnelles.
Il dit que c'est le seul sujet sur lequel les citoyens ont demandé un référendum et qu'il a gardé, puisqu'il a écarté aussi l'écocide. On pourra peut-être en parler. Donc effectivement, sur les trois référendums qui ont été demandés par la Convention, le seul qui reste, une fois qu'il a enlevé l'écocide parce qu'il considère que le travail n'est pas suffisamment abouti et que là aussi ça pourrait être retoqué par le Conseil constitutionnel, que le préambule, ça ne va pas parce que ça va contre la Constitution, il ne reste plus que l'article 1er. Les citoyens ont effectivement fait le choix de laisser à l'exécutif la possibilité de faire un référendum sur les autres sujets, mais ne l'ont pas imposé.
D'accord.
Au terme d'une session très mouvementée.
Bon, c'est un tout petit peu plus clair. Marine, vous disiez, il n'y a pas eu seulement les trois jokers, il y en a eu d'autres dans les jours qui ont suivi. Parlons par exemple de la 5G et écoutons ce que en disait le député insoumis François Ruffin à l'Assemblée.
Dimanche dernier, les 150 Français de la Conférence citoyenne pour le climat rendaient leurs conclusions. À 98%, ces citoyens tirés au sort votaient pour un moratoire sur la 5G. Une technologie qu'il considère, je les cite, « sans réelle utilité ». Dans son discours hier, le président de la République n'en a pas dit un mot. Silence radio. Pouvez-vous nous assurer que les enchères pour les fréquences 5G prévues pour septembre sont bien gelées, voire annulées, oui ou non ?
Comme la Suède, comme la Finlande, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, comme la Chine, comme la Corée, comme la Nouvelle-Zélande, oui, nous allons lancer les enchères de la 5G.
Là, vous mesurez l'enfumage. Il y a une semaine, 98% des citoyens réunis viennent nous dire que c'est une technologie inutile, sans réelle utilité. Le président de la République dit « je reprendrai tout, il y a trois jokers ». Et là, on vient nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de moratoire sur la 5G, que les enchères sont lancées. Ça veut dire que tout ce qui a été fait là par les citoyens, c'est du bidon.
Marine, Rogovitz, tout ce que vous avez fait, c'est du bidon, finalement ?
Alors, non, tout ce qu'on a fait, c'est pas du bidon, mais c'est vrai qu'on nous prend un peu pour des idiots, parce que, justement, c'était vraiment une de nos mesures phares, celle-là, la 5G. Et en fait, on nous dit avec un... Enfin, on voit avec un tel aplomb comment on peut nous enfumer, hein, vraiment. On nous dit... personnellement, quand j'ai vu cette vidéo... Je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, ils n'ont rien compris. Ils sont arrivés... Enfin, on nous prend pour des andouilles, en fait. On était là, on a fait un travail très long, très dur. On a été ensemble, on a vu toutes les conséquences humaines. Et on a vraiment fait au mieux pour les citoyens. Et on voit qu'en fait, ça sert à ça. Il y a des choses qui, finalement, ne servent à rien. Et c'est décevant. On est censé avoir confiance dans la politique. Vous... Et finalement, au contraire.
Vous avez des mots très durs. Vous regrettez d'avoir joué le jeu et d'avoir participé à l'expérience ?
Absolument pas, parce que c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire que je ne vivrai qu'une seule fois dans ma vie et que je souhaite à tout le monde de vivre au moins une fois dans sa vie. Et ça m'a apporté énormément, ça m'a enrichi, ça m'a, même au niveau humain, ça m'a apporté beaucoup. Donc je ne regrette absolument pas.
À titre personnel, vous avez retiré beaucoup, mais vous n'avez plus. Vous diriez aujourd'hui que vous n'avez plus aucune illusion sur... ce qui suivra votre travail
En fait, j'en sais pas vraiment. Ça dépend si les politiques veulent vraiment prendre conscience, s'ils veulent vraiment avancer, mettre l'environnement au-delà de l'économie et pas l'inverse. Mmh. Et si c'est le cas, alors oui, le monde sera positif, peut-être mieux demain. Mais par contre, si ce qu'on a fait, tout notre travail n'est pas réellement pris en considération, sincèrement, j'aurais un sentiment d'échec et d'impuissance énorme. Ce serait vraiment dommage, en fait.
Alors, sur l'accueil... on a vu l'accueil politique, hein. Sur l'accueil médiatique...
Juste un petit mot là-dessus, quand même. On est en train de rentrer dans la politique, là. enfin, il faut quand même en avoir conscience. Les citoyens, le gouvernement, tous ceux qui ont participé en gros à élaborer ces propositions sont en train de voir qu'elles intègrent le jeu politique. Et que, évidemment, on mesure un certain décalage entre les promesses et ce qui va sans doute être fait. Il ne faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que c'est justement maintenant qu'un rapport de force doit s'engager. Si un référendum est organisé sur l'article 1er, si effectivement, comme ils l'ont annoncé, il y a des lois très fortes sur la rénovation thermique des bâtiments, sur l'artificialisation, enfin, pour arrêter l'artificialisation des sols, et sur une grande majorité des propositions de la Convention citoyenne, c'est une victoire. Enfin, je veux dire, regardez ce que les ONG, regardez ce que les militants écologistes ont obtenu ces dernières années. Si la loi qui va être présentée à l'automne est vraiment substantielle, reprend une grande majorité des propositions, et même si on en a un certain nombre qui passent à l'as, évidemment, c'est très décevant, évidemment, c'est encore des coups de couteau dans le contrat, mais il faut pas lâcher maintenant.
– Mais alors, vous dites le rapport de force, ça commence maintenant, il ne faut pas lâcher maintenant, mais avec quel instrument précis? C'est-à-dire, concrètement, est-ce que les 150 ou certains d'entre vous, vous restez en contact, vous continuez de vous constituer en entité délibérante et vous exprimant, vous comptez continuer de vous réunir, vous existez encore ?
Exactement.
Ça se passe comment ?
Exactement. Nous existons encore à travers une association qui s'appelle Les 150 et nous allons défendre et présenter et commenter nos mesures devant les médias, devant les partis politiques, devant la population, pour que, justement, ce travail ne soit pas inutile.
De toute façon, vous continuez à débattre entre vous, là, depuis que c'est officiellement terminé ?
Non, on se réunit surtout par groupe de travail. Là, c'est en train de se constituer, des petits groupes de travail par rapport au thème, à ceux qui se sentent le plus à l'aise pour défendre telle ou telle mesure. Et répondre, comme aujourd'hui je suis venu sur votre plateau, il y en a d'autres qui vont ailleurs, voilà.
Mais il y aura encore une expression collective de la Convention.
Ah oui, bien sûr. Et en plus, on va se réunir. Enfin,
au moment où la loi sera promulguée, dernière session, donc ce qui est supposé être la session 8, va être organisée pour que les 150.
Pas la parole à la Convention, vous. Laissez parler le conventionnaire.
Voilà. Ben justement, normalement, on va donner notre réponse à la réponse du président. Et donc, d'accord, elle va être nourrie, cette réponse, forcément, par tout ce qui a été dit dans les médias, l'accueil de nos mesures dans les médias, etc., bien sûr.
Alors, réaction médiatique, on l'a dit depuis le début de l'émission, le 110 sur l'autoroute, le 110 sur l'autoroute, le 110 sur l'autoroute, montage.
Le passage sur l'autoroute, c'est la première et la mesure phare, en tout cas la proposition phare, passer de 130 km/h aujourd'hui comme limitation à 110 km/h demain. Pourquoi ? Parce que ça pollue moins de rouler moins vite. Proposition qui a été votée à 60% par l'Assemblée citoyenne et peut-être plus tard par l'Assemblée nationale.
Après les 80 km/h sur nationale, place peut-être aux 110 sur autoroute. Une simple proposition qui divise déjà les automobilistes.
De nombreux journaux régionaux, regardez, reviennent ce matin sur l'une des idées de la fameuse Convention pour le climat, limiter la vitesse à 110 km/h sur autoroute. Ça ne passe pas. Une bombe, une proposition qui fâche. Est-ce une bonne idée ?
Vous savez que la Convention dite citoyenne sur le climat a proposé de limiter la vitesse sur autoroute à 110 km/h contre 130 aujourd'hui. Nous nous sommes demandé si cette mesure pouvait être efficace. Est-elle de nature à réduire la pollution ? Rallongerait-elle beaucoup la durée des trajets ? Permet-elle de faire des économies de carburant ?
Voilà, c'est sûr que cette proposition de la Convention citoyenne sur le climat fait beaucoup réagir. Il y a déjà 600 000 signatures qui ont été recueillies par l'association 40 millions d'automobilistes, vous savez, sur Internet, pour dire non, non, pas de 110 km/h sur l'autoroute.
C'est une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Anthony Joly, un sondage vient d'être réalisé.
Oui, et à une large majorité, les Français sont contre. 74% des personnes interrogées ne veulent pas d'une limitation de vitesse à 110 km/h sur autoroute.
Alors, j'imagine que tous les 150, ou la grande majorité des 150, vous avez découvert à ce moment-là le jeu médiatique et la perversité du jeu médiatique. Vous avez été surpris l'un et l'autre ?
Alors, moi, je suis très à l'aise par rapport aux 110 km/h parce que moi, j'étais contre. pas sur le fond, mais sur la forme. Donc j'ai voté contre cette mesure, mais par contre, elle est tout à fait justifiée par rapport à la réduction des gaz à effet de serre.
Mais je vous parlais des médias.
Ça t'a surpris de voir que ça tournait en boucle.
Ah bah oui, mais bon, les médias... D'ailleurs, il y avait certains citoyens dans la Convention qui avaient dit, mais ça va immédiatement faire une bulle formidable. Et de fait, ils avaient raison. Mais la réponse du président, elle a été très, très claire et elle est très logique. C'est celle que j'avais faite à la Convention, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est pas le moment de faire les 110 km/h.
Pourquoi ?
Parce que si la Convention citoyenne avait voté ou avait mis des propositions qui transformaient le moteur de la société, au lieu de mettre l'argent à la première place, ils mettaient la vie, alors là, moi, je roule à 50 km/h sur l'autoroute. J'y vais même plus sur l'autoroute. Mais c'est vrai. On est dans une schizophrénie générale partout.
Je comprends pas. Vous étiez contre le 110 parce que, par ailleurs, les autres propositions n'étaient pas assez radicales, c'est ça ?
Ah si, si. Les propositions, elles sont radicales.
Pourquoi vous étiez contre le 110 ? J'ai pas compris.
J'étais contre le 110 parce que je trouve que c'est maladroit. C'est mettre la charrue avant les buts. D'accord. Avant les buts. Voilà, c'est maladroit.
Marine, sur la polarisation médiatique sur le 110, ça vous a surprise ?
Alors non, sincèrement, je m'attendais à ce que ce débat prenne une ampleur énorme et qui prenne une dimension importante. Et justement, moi, j'étais dans le groupe Se Déplacer et j'étais une de celles qui était contre cette mesure, non pas sur le fond, comme Hugo Olivier, mais sur la forme, parce que malheureusement, les citoyens, quand on a vu comment ils ont réagi par rapport aux 80 km/h, c'était un truc énorme. Les gens ont très mal réagi. Je dis, ça va être une mauvaise chose pour notre convention. Ça va être mal vu, mal perçu si on met en place ce 110. Après, voilà, je pense que l'intelligence collective a fait en sorte que cette mesure soit passée. Donc, c'est la meilleure solution. Je suis d'accord avec ça sur le fond. Mais après, c'est dommage. C'est le jeu, hein, que les médias aient repris ça. Et...
C'est le jeu. OK, c'est le jeu. Alors, cela dit, c'est le jeu. Alors, c'est vrai que la plupart des réactions...
Je déteste ce jeu. Pardon. Je déteste ce jeu. Moi, quand on dit c'est le jeu, je boue.
Ce que je peux parfaitement comprendre. Cela dit, la plupart des réactions ont été, enfin pas aussi caricaturales que celle-là, mais du même genre, c'est-à-dire avec une polarisation sur une ou deux mesures chiffon rouge. À la décharge des journalistes et des médias, il faut dire qu'il est assez compliqué de rendre compte de 149 propositions en détail, avec pour chacune une analyse et une critique. Alors il y a un média qui s'y est essayé, c'est Le Monde. Je voudrais qu'on voit, alors avec le secours d'Internet et du ce qu'on appelle le data journalisme. Donc, ils ont passé au crible les 149 ou 146, suivant qu'on retient les jokers ou pas, propositions de la Convention. Alors, avec des schémas, là, comme celui-ci, par exemple, qui montre que la plupart des mesures proposées ciblent l'alimentation ou les transports et que les mesures ciblant la constitution ou par exemple la consommation en bas de schéma sont une minorité de mesures, ce qu'on appelle le data journalisme. Autre calcul qu'ils ont fait, se demander qui est ciblé entre les individus, les entreprises et l'État, et on voit que ça se joue à peu près à égalité, hein, l'État, les entreprises, les comportements individuels. Quelle méthode est préconisée ? Alors, toujours avec le secours du data, on voit que effectivement, c'est quand même les normes et les contraintes qui sont les méthodes les plus préconisées, donc ce que les médias appellent l'écologie punitive dans le langage médiatique, tandis que Adèle, si on peut rester. Tandis que la pédagogie et l'information sont parmi les mesures les méthodes les moins préconisées, l'effort financier arrivant au milieu, voilà. Tous ces petits carrés, les petits carrés bleus, là, bleu clair ou bleu foncé, il est possible pour l'internaute de cliquer sur... Allez, Adèle, on va prendre un carré au hasard et on va cliquer sur un carré au hasard. Est-ce qu'on peut revenir... Non, si, on ne peut pas ?
C'est
le clic qui fait descendre sur... les mesures sont classées donc par... ordre de par secteur industriel. Là, on est dans les mesures sur la pêche, par exemple, mieux connaître les stocks et flux de poissons pour définir les quotas de pêche, renforcer la limitation de la pêche en zone sensible et contrôler les interdictions en eau profonde. On voit que vous êtes vraiment allé dans le détail.
Bien sûr.
Dans le détail.
Bien sûr.
Et on voit la petite note qui a été faite par le comité, par le groupe d'appui pour mesurer l'impact de chaque mesure.
C'est-à-dire que pour chaque proposition...
Il y avait un petit marquage par étoile pour dire si l'impact était fort, moyen ou faible.
Sur l'émission des gaz à effet de serre.
Voilà, c'est ce qu'on voit là, c'est ce que Adèle Bello est en train de nous montrer. Voilà, donc il était possible, aujourd'hui, avec les moyens modernes, de...
Ah bah oui, il était possible de se dire que la mesure phare n'était pas le 110 km/h, si on s'intéressait un peu à la question.
D'autant plus que moi, ça m'interpelle beaucoup, cette histoire de mesure phare, parce que j'ai pas l'impression que dans le travail, il y a eu une prédominance... Enfin, j'ai pas l'impression que ça corresponde à la manière dont le travail a eu lieu.
Dans vos data, là, justement, dans tous les data, là, on voit très bien, à part les mesures sur la Constitution, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai que pour modifier la Constitution, on n'allait pas débattre pendant 9 mois. Donc, voilà. Mais par contre, l'ensemble des mesures, elles sont globalement, l'alimentation, le déplacement, etc., c'est quasiment, c'est normal, c'est le travail de fond.
D'ailleurs, puisqu'on est arrêt sur image, à propos des mesures phares, si on peut revoir une seconde l'image de la revue de presse de Jean-Pierre Pernaut sur justement cette revue phare, on voit qu'on a l'impression que toute la presse parle de la revue phare. Or, entre le journal qui est tout à gauche, Le Dauphiné, est-ce une bonne idée? Le journal qui est tout à droite, Vaucluse Matin, est-ce une bonne idée? On voit qu'il s'agit du même journal avec deux titres différents et que le titre n'est pas particulièrement réprobateur.
Ce qui était assez incroyable aussi, c'est on voit France 2 qui dit qu'il y a eu un sondage, 74% des gens sont contre. En fait, le sondage qui a été fait, commandé par France Info et Le Figaro, à Odoxa, disait ça, mais disait aussi que l'ensemble des autres mesures étaient globalement soutenues à 75% par les personnes interrogées. Quand Le Figaro a titré, c'est pareil, ils ont titré « Haro sur le 110, les Français rejettent le 110 » et le sous-titre de l'article était « Et les autres propositions sont majoritairement, largement soutenues par les Français ». Ça aussi, c'est quand même un jeu médiatique assez pervers qui a tendance à... Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas entendu parler de la Convention. Je me retrouve face au journal de Jean-Pierre Pernaut. Je me dis, encore les écolos avec leur connerie de 110. Bon, je m'y intéresse même pas.
C'est ça.
Alors que si on me propose un peu d'analyse et qu'on me dit, il y a 150 propositions, vous pouvez aller les voir sur Internet, il y a des choses d'ordre très différent... Vous, Français, allez peut-être pouvoir être consultés par référendum pour dire si vous êtes d'accord ou non.
Pourquoi ils font ça? On voit là l'image correspondant à ce que vous venez de dire. Mmh. Pourquoi ils font ça?
Ben, peut-être que vous avez plus d'éléments pour nous le dire,
non, mais attendez,
étant de la profession. C'est globalement, ils font ça pour polariser le débat, à mon avis, pour discréditer...
C'est pas la même chose. Polariser ou discréditer?
Un peu des deux. Je pense que cette histoire de 110 km/h, de toute façon, c'est quelque chose qui est sensationnel, qui va faire réagir, donc potentiellement qui crée du clic, qui crée de la tension médiatique. Bon, ça, on va dire que c'est le jeu traditionnel. Après, venant du Figaro ou venant du Point, on a vu aussi des choses stupéfiantes dans le Point ces derniers temps. On voit qu'il y a un biais idéologique aussi, que c'est des journaux qui, dans leur logiciel, ont plutôt tendance à rejeter tout ce qui a trait à l'écologie, où aujourd'hui, d'ailleurs, on voit que le débat s'est un peu déporté, c'est plus seulement rejeter, c'est faire un classement en disant il y a les vrais écolos et les faux écolos. Les vrais écolos, c'est nucléaire, OGM, glyphosate, et les faux écolos, c'est Nicolas Hulot...
Et Cyril Dion.
Ouais, par exemple.
Quoi ça?
Donc là, je pense qu'il y a une sorte de combat idéologique qui est en train de s'engager, et que les médias ayant... un certain nombre de biais idéologiques ne sont pas totalement indépendants dans ce combat.
Alors, parmi les arguments qui sont donnés contre la Convention pour vous discréditer par effectivement toute cette galaxie, il y a le fait que vous auriez lavé la tête, conditionné, vous les écolos, aux 150. Alors, c'était notamment, c'était exprimé par beaucoup d'éditorialistes, mais notamment par exemple par le philosophe Pascal Bruckner.
Sur la Convention citoyenne, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est très bien de consulter, moi je n'ai rien contre, même si beaucoup des décisions de cette Convention menées par des jeunes gens ont été très influencées, je crois, par Thierry Pêche de Terra Nova.
Qui est l'animateur.
Qui est l'animateur, donc, et par Cyril Dion. C'est-à-dire que si j'étais un peu vache, je dirais que les conclusions avaient été écrites avant même les consultations.
Alors, ces fameuses consultations, Juliette, ça s'est passé comment? Qui la Convention a-t-elle reçue?
Alors, qui a-t-elle reçu alors, parmi les critiques, vous parliez du Point. Il y a une chronique de Kervazoué qui est donc titrée « La brillante manipulation du choix des intervenants ». Je cite. Alors, je vais commencer par alors, Kervazoué, en faux.
C'est
un économiste de... Alors, Jean de Kervazoué, économiste de la santé. Chroniqueur au Point, donc. Et alors, lui, il passe en négatif. C'est-à-dire, si je le cite, au lieu de dire qui était là, il dit qui n'était pas là et pourquoi c'est un problème pour lui. Donc, je cite, pas de physicien nucléaire, pas de chercheur à EDF, pas de climatologue, pas de météorologiste, pas de démographe, pas de membre de l'Académie des sciences, pas de membre de l'Académie des technologies, pas de nutritionniste, une seule représentante de l'Académie d'agriculture. Alors, c'est le même qui, quand même, de ligne plutôt expliquait que parmi les intervenantes, on avait Valérie Masson-Delmotte, qui est paléoclimatologue et coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC. Donc, qui sont vraiment les intervenants? La liste, elle est, comme vous le disiez, la liste, elle est publique sur le site de la Convention. Il y a même un graphique qui nous permet de voir qui est intervenu. Donc, on voit qu'effectivement, les entreprises et les ONG ont grosso modo eu le même nombre d'intervenants. Il y a eu assez peu d'universitaires comparativement. Il y a à peine 10% d'universitaires. Il y a toute la partie sur les institutions, l'exécutif, les collectivités locales, les administrations, voilà, qui, elles, forment aussi une bonne vingtaine de pourcents.
La question, ce n'est pas seulement qui est intervenu, c'est qu'est-ce que les intervenants ont dit, de quelle manière ils ont pu être questionnés, voilà. Mis sur le grill pour certains d'entre eux. Vous avez regardé un peu certaines interventions?
Oui, c'est ça. Alors, du coup, nous, on s'est un peu concentré sur les entreprises, donc les grands méchants. Il y a eu le PDG d'Aéroports de Paris, Augustin de Romanet, le PDG de Danone, Emmanuel Fabre, des représentants de banques, dont BNP Paribas, des représentants du groupe Bouygues, de Vinci Autoroute, de la SNCF, du MEDEF. Moi, en fait, j'ai regardé une partie des sessions filmées en plénière et en groupe de travail. De ce que j'ai vu, malgré tout, le tout donne surtout l'impression que les intervenants n'ont pas eu assez de temps pour s'exprimer et qu'il n'y a pas eu assez de temps pour tous les interroger en profondeur. Souvent, ça s'alternait assez vite entre différents groupes de plusieurs personnes en même temps qui devaient parler chacun leur tour pour 5 minutes avec une ou deux questions. Le PDG d'ADP, d'Aéroport de Paris, par exemple, n'a pas dû parler plus de 10 minutes, je pense, en plénière pour défendre le fait que le secteur faisait des efforts et que l'avion n'était pas subventionné par le public comme l'était le train. Le PDG de Danone a eu le temps de se déclarer en faveur des consignes et c'est quasiment tout de ce que j'ai vu. Le président du conseil de surveillance de PSA a surtout beaucoup répété qu'il ne fallait pas bannir la voiture et l'adapter et adapter les transports en fonction des besoins.
Ben, ça donne quand même l'impression qu'ils sont tous venus faire leur petit tour de piste de greenwashing, là en expliquant à quel point leur activité était d'abord nécessaire et ensuite faisait plein d'efforts pour polluer le moins possible. Est-ce que vous estimez que vous avez été suffisamment informée, Marine ?
Alors oui, je pense qu'on a eu déjà un beau panel de personnes qui sont venues nous parler, d'experts qui sont venus nous voir et nous exposer le problème. Et puis on dit qu'on est influencé. Enfin, au bout d'un moment, on a eu des avis divergents. Même il y a des experts qui n'étaient pas forcément d'accord entre eux. On a vraiment eu, on n'a pas eu des avis lisses et qui allaient tous dans la même direction. Et même entre nous, les citoyens, des fois il y a eu des conflits avec des experts. Parce que justement, ils n'étaient pas d'accord, ou alors il y avait des petites frictions. Enfin, je veux dire, on n'a pas.
Par exemple, vous avez le souvenir d'un débat d'experts contradictoire qui vous est paru particulièrement éclairant à vous?
Alors, personnellement, on a vu tellement d'experts que je vous avoue que je ne m'en souviens. Ouais, je ne pas tous les noms des experts. Hein. Mais oui, il y avait eu des débats où justement, il y en a un qui dit bon, bah, je suppose que toi, tu ne vas pas être d'accord. Bon, bah, vas-y, tiens, parle. Oui. C'est sympa de voir que même eux, ils en rigolent, quoi.
Je prends un exemple. Le PDG d'Aéroports de Paris, qui, sauf erreur, a été le seul représentant du lobby aérien à intervenir devant la convention. Est-ce qu'il a été placé en mesure de défendre l'avion, la nécessité économique de l'avion, les efforts de l'aviation en matière de pollution, de manière convaincante?
Les citoyens et la Convention, elle n'est pas contre l'activité humaine. Aucune activité humaine n'est... Enfin, la Convention n'est au, devant... Au, ne, ne, ne repousse aucune... Simplement, On est devant le problème du climat. Donc, l'aéroport de Paris, monsieur le président, a débattu et il a proposé, il a montré ce qu'il savait faire, oui, et ce qu'il allait faire en matière climatique. Eh bien, très bien. Sauf que, de toute façon, l'émission de gaz à effet de serre des avions, c'est catastrophique.
Non, mais ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Non, mais pour reprendre
dans une session avec, si je me souviens bien, Elisabeth Borne, Laurent Berger et.
De raison action.
Pour exactement reprendre les critiques de Bruckner et de tous les bruckneriens qui disent les Khmer verts, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Les propositions que vous avez faites impactent un certain nombre de secteurs économiques, l'aérien, l'agro-industriel traditionnel, etc. Est-ce que ces gens-là ont été en position véritablement de se défendre et de faire valoir leur point de vue devant la Convention ?
Moi, j'étais. Louis Gallois, je me souviens qu'il était dans un groupe. Puisqu'il y a eu des interventions en plénière et il y a eu des interventions devant les groupes thématiques qui traitaient des différents sujets.
Gallois PSA. Hein.
Clairement, moi j'étais sur mon fauteuil parce que j'étais absolument pas d'accord avec ce qu'il disait. Et il faisait une sorte de lobbying très. J'ai pas jusqu'à dire très agressif, mais enfin.
Très assumé aussi. Hein.
Très assumé sur la place de la bagnole. Il faut pas enlever la voiture.
Pour ça.
Absolument. Ouais. Mais donc je veux dire, quand on dit qu'ils n'ont pas eu l'espace de pouvoir défendre leur secteur d'activité ou leur point de vue, je trouve que c'est un peu gonflé. Quand Pascal Bruckner vient dire que les conclusions étaient écrites à l'avance et que c'était nous qui étions derrière à la manœuvre. Combien de fois je me suis exprimé en plénière et combien de fois je me suis exprimé sur les sujets.
C'est-à-dire très peu.
Jamais.
Jamais.
Il était garant. Il ne pouvait pas intervenir.
Je ne me suis jamais exprimé en plénière sur les sujets. Je pense que j'ai parlé trois fois. J'ai dû parler.
Alors, et dans les couloirs. Parce que vous me disiez au téléphone, Marine, que le plus intéressant, finalement, ça avait été les discussions de couloirs et de cafettes. Vous avez dit ça.
Comment ?
Si, vous me l'avez dit.
Ah oui, non, je suis d'accord. C'était très intéressant, mais c'était surtout entre citoyens. Après, quand on parlait... Enfin, les garants ont toujours eu un rôle, notamment Cyril Dion, il a toujours été neutre, en fait. Il a vraiment essayé de prendre sur lui, de ne pas donner son avis, de nous laisser vraiment nous-mêmes nous forger nos avis et nos idées. C'est pour ça qu'à la fin, d'ailleurs, quand c'est fini, il nous remercie. Il est enfin content de se libérer de toutes ces chaînes, de dire « Bon, voilà, je suis content, vous avez fait du bon travail. » Voilà. Enfin, donc non, on n'a pas du tout été influencés. Mais entre nous, forcément, les citoyens, on a débattu énormément. Et c'était passionnant de voir, même le midi quand on mangeait, le soir quand on rentrait à l'hôtel, on pouvait discuter des heures et des heures sur tout ce qu'on avait vu, quoi.
La critique qui était la plus fondée sur ce sujet-là, c'était la critique du biais des experts et particulièrement des groupes d'appui, qui avaient un rôle très important, puisqu'ils ont participé à l'élaboration des propositions avec les différents groupes thématiques. Ils étaient là, en soutien, à chaque fois, pour leur permettre d'évaluer quel était l'impact des propositions qu'ils faisaient, et pour leur donner des éléments techniques. Mais ce que font les élus aussi. Je veux dire, des députés qui travaillent sur un projet de loi, ils vont s'entourer d'un certain nombre d'experts pour essayer de comprendre le sujet.
Et alors, dans quelle mesure dites-vous que cette critique était fondée ?
Parce que, à plusieurs moments, en tant que garant, on est intervenu en disant, attention, la proposition qui est faite, et je me souviens notamment de la session en ligne qu'on a fait le 3-4 avril, pendant le confinement, donc qui était sur Zoom, donc on était à 180 sur Zoom, où le format faisait que la participation et la délibération étaient beaucoup moins qualitatives qu'en présentiel. Et la proposition qui était mise sur la table était la proposition du groupe d'appui pour pouvoir aller plus vite, ce qui était compréhensible. Mais au bout d'un moment, j'ai alerté les animateurs en disant « Attendez, c'est une proposition. Il faut absolument redire aux citoyens que c'est une base de travail sur laquelle eux ont besoin d'élaborer et absolument pas de la prendre pour argent comptant. » Et donc, les animateurs ont réagi, l'ont redit en session. Moi, je l'ai redit aussi en disant « C'est une proposition, ne votez pas ce que le groupe d'appui vous propose. » Donc, évidemment, ça, c'était toujours possible. Et c'était justement à ce travail-là qu'on s'astreignait, nous, mais absolument pas à les influencer. D'ailleurs, pour donner juste une petite anecdote, il y a eu un débat sur un amendement qui a été déposé sur l'interdiction des pesticides. L'amendement a été déposé par un des citoyens qui est viticulteur. Et donc, en gros, il amoindrissait la proposition qui avait été faite au départ puisque le calendrier était assez strict, en disant on interdit en 2040 tous les pesticides.
Et lui, qu'est-ce qu'il a proposé ?
Lui, il a proposé d'interdire uniquement les produits qui étaient reconnus comme étant cancérigènes, etc. Avec le biais que ça induit, puisqu'il y a un certain nombre d'études qui viennent des entreprises elles-mêmes. Les citoyens n'étaient pas contents. Les citoyens qui portaient cette proposition-là n'étaient pas contents de l'amendement. Ils sont venus nous voir, les garants, nous disant « il y a eu un problème, et en gros, l'amendement a remplacé la proposition, donc on ne peut pas accepter ça, et donc on a été obligé de statuer ». Moi, idéologiquement, si j'écoutais mes propres convictions, j'étais plutôt en faveur de ce que la proposition initiale mettait sur la table. Et en l'occurrence, en regardant le processus, on s'est rendu compte que l'amendement avait été voté tout à fait correctement, de façon majoritaire, et qu'il était passé. Et donc, on est revenu vers les citoyens, je leur ai dit, j'ai beau être d'accord avec vous sur le fond, on est obligé. Donc, on a même été contre nos convictions à plein de moments.
On voit bien, mais pour visualiser encore mieux à quoi ressemblaient les débats de la Convention, surtout quand ils se déroulaient en visio du fait du confinement, on a pris un exemple, l'exemple de la fameuse proposition, finalement retoquée, sur la réduction du temps de travail à 28 heures.
La modalité qui a été retenue, c'est de réduire le temps de travail, de le passer de 35 à 28 heures.
Moi, je suis contre cette proposition. Pourquoi ? Parce qu'on est en sortie de crise sanitaire. On ne peut pas imposer aux entreprises
une
réduction du temps de travail au même salaire.
Je pense que la réduction du temps de travail va engendrer une grande quantité de délocalisation et de fermeture d'entreprises. J'estime que ce serait une catastrophe pour notre pays.
Vraiment, on va passer, je pense, pour des guignols auprès de la France si on fait passer une mesure comme celle-là. Travailler tout autant, gagner tout autant tout en travaillant moins, ça va juste être très négatif pour notre image, quoi.
Le coût de production va être multiplié par 20%. Donc, il faudra accepter la baguette de pain à 1,50 €.
Je pense que vous faites une erreur monumentale. Je pense que la réduction du temps de travail, ça va être vraiment un thème qui va être central dans les années à venir pour notre société. Et je pense que là, vous êtes à côté de la plaque.
On a l'impression qu'on a posé quelque chose en étant des ovnis. Non, il y a aussi des économistes, il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'entreprises et beaucoup d'autres pays qui s'y sont mis, donc c'est possible.
Hier, en regardant les infos, les journalistes, en reprenant des brins de nos mesures, ont réussi à sortir que ce que la Convention citoyenne proposait était digne d'un régime totalitaire. Donc si en pleine crise, sortie de crise du Covid-19, les journalistes relayent que la Convention citoyenne souhaite de réduire le travail, alors qu'on sait très très bien que pour l'instant, je prends un exemple d'entreprise comme Air France, qu'il faut décupler le travail pour sortir de cette crise, on risque de se faire lyncher.
C'est le premier objectif rejeté à 65%.
Voilà, donc ça a été retoqué. On voit plusieurs choses dans ce montage. On voit d'abord le caractère frontal des débats que vous avez eus entre vous. Je crois que ça a été quand même le plus chaud, celui-là, Marine.
Oui, c'était le plus chaud. Et j'ai pris la parole vraiment sur cette mesure-là parce que on n'est pas prêt, on n'est pas encore prêt à de tels changements dans notre société. Peut-être qu'un jour, ça sera possible, mais j'estime qu'aujourd'hui, personnellement, ce n'est pas encore faisable. Après, il y a aussi Hugo Olivier, je crois qu'il avait pris la parole, je n'étais pas sûre, mais c'était aussi intéressant. Bref, ça fait beaucoup de remous et je suis quand même contente qu'elle ne soit pas passée, celle-là.
Et vous ?
Ah oui, mais c'est exactement comme pour les 110 km/h. Si nous changeons le moteur de la société, si on remet la vie à la première place, oui, on partagera le travail, ce sera une obligation pour que tout le monde en ait. Après, la répartition des revenus, etc., ça, ce sera, voilà, si on change de modèle économique, mais tant qu'on est jetés les uns contre les autres, en compétition les uns avec les autres, les entreprises, les États, les individus, la réduction du temps de travail, c'est pas le moment.
Alors, et ce qu'on voit là aussi, notamment dans la dernière intervention du montage, c'est à quel point certains d'entre vous ont été sensibles à l'accueil des médias. Je veux dire, le souci de ne pas se faire lyncher par les médias est présent quand même dans vos débats.
Alors pour moi, Ça n'a jamais été le cas. C'est vrai que dans la Convention, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient les médias, ou même au tout début de la Convention, certains avaient peur de comment les élus, le gouvernement, etc., allaient recevoir. Après délibération, tout ça, ça s'est calmé. Mais moi, j'ai jamais... Moi, ça ne m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, c'est vrai, les médias, c'est terrible ce qu'ils vivent, parce qu'ils ne lisent pas les propositions et ils les démontent avant même de les comprendre. Donc, c'est absurde. Voilà, mais je m'y attendais pas, ou je m'y attendais, mais ça m'est complètement égal.
Et à vous, Marine ?
Moi, alors du coup, non, moi je trouve que, justement, contrairement à Hugo Olivier, ça m'apportait beaucoup l'avis des médias, parce qu'on sait très bien que la communication est un outil très important pour convaincre les foules, et justement, il fallait que les médias soient de notre côté, pour justement convaincre les citoyens de nous suivre et de porter nos propositions. Et c'est un outil pour forcer le gouvernement à porter jusqu'au bout nos mesures.
Alors, et c'est pas gagné. Alors, on a parlé tout à l'heure du 110 km/h, mais d'une manière plus générale, sur un certain nombre d'émissions influentes des chaînes d'infos, on peut même dire que c'était perdu d'avance, quoi.
Et vous savez, est-ce que vous savez la mesure phare ? C'est pour ça que moi, ces gens... parfois, je m'intéresse sur
la mesure phare, allez-y.
La psychologie de ces gens m'intéresse vraiment beaucoup. La mesure phare, c'est l'interdiction du chauffage des terrasses de café.
C'est ce que j'allais dire.
Tout ça, c'est un ensemble idéologique qui est assez cohérent, en fait, qui veut choisir la décroissance contre la croissance et qui est en fait une action contre notre modèle de civilisation et l'économie de marché, en réalité. Hein.
Moi, je vais vous dire...
Ils sont contre la pub, c'est d'ailleurs.
Ils sont contre la pub.
Tout doit disparaître.
Oui. Cette convention citoyenne a quand même ciblé des mesures qui sont à peu près toutes inefficaces pour s'attaquer réellement au vrai problème du réchauffement climatique. C'est pas en interdisant la pub avec des slogans moralisateurs. Donc quoi, l'État va nous dire, est-ce que vous avez vraiment besoin d'acheter
mais ça on aime beaucoup qui en France, a envie c'est besoin, dans l'esprit du pays. C'est on se donne bonne conscience de avec des trucs ridicules.
Mais voilà. Globalement, c'est quand même la consécration de l'écologie punitive, anti-croissance et dépensière.
On a fait ça. À l'origine, c'était pour les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils se sont révoltés contre quoi ? Ils se sont révoltés contre une mesure d'écologie punitive. On nous en a mis 150. Beau résultat.
Est-ce que les gilets jaunes ont accouché des Khmers verts ?
Le groupe Se Nourrir propose de passer à un choix végétarien quotidien dans les self-services à partir de 2022.
C'est quand même un rebours par rapport à toute l'histoire de l'humanité. Je veux dire, on est en train de soumettre l'homme à l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a... C'est presque une religion divinatoire où l'homme doit se rétrécir et se rabaisser face à l'environnement.
Ça a très vite tourné au monôme anticapitaliste. On est allé jusqu'à discuter des 28 heures de travail par semaine. Je crois qu'au dernier moment, ils se sont retenus.
Voilà, au dernier moment, ils se sont retenus. Notamment, vous voyez, vous avez quand même satisfait Éric Zemmour.
Oui. Non, mais c'est quand même... C'est quand même, enfin, moi, je m'en tire les cheveux, je pourrais vraiment, enfin, de voir toutes ces réactions, puis même, on voyait le tout et son contraire, on nous critiquait pour le fait qu'on n'ait pas parlé de la taxe carbone, mais après, on nous dit, enfin, les Gilets jaunes ont manifesté à cause de la taxe carbone, entre autres, et là, on nous critiquait parce qu'on ne voulait pas remettre en place la taxe carbone, enfin, il y a des choses, genre, mais vous contredisez vous-même, en fait, et c'est, franchement, ça de quoi se retourner plusieurs fois, mais ça fait vraiment mal de voir des choses comme ça. Mais bon, on peut rien y faire et on peut juste essayer d'encaisser les coups et d'essayer de défendre notre beefsteak comme on peut, en fait, je pense.
Bon, cela dit, au-delà des outrances verbales, il y a un reproche de fond qui est exprimé par plusieurs des personnes qu'on a entendues là. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même en début d'émission, ce qu'on reproche à la Convention, c'est d'avoir clairement opté pour une perspective de décroissance. Et implicitement, ça veut dire quoi ? Implicitement, ça veut dire qu'il y aurait d'autres solutions, il y aurait une bonne écologie qui serait une écologie compatible avec la croissance et qui ne serait pas l'ennemi de la croissance.
Je crois que les citoyens n'ont jamais parlé eux-mêmes de décroissance. C'est les éditorialistes qui en ont parlé. C'est le Premier ministre qui en a parlé à l'Assemblée. Je pense qu'en fait...
Mais c'est quand même sous-tendu par un certain nombre de mesures.
Ben, ça remet en question le fait qu'on puisse avoir une croissance infinie dans un monde fini, oui.
N'ayons pas de prudence verbale.
Non. J'ai pas de prudence verbale. Hein. Et je suis en train de finir de monter un film en ce moment. On a une séquence assez formidable avec un économiste qui s'appelle Éloi Laurent, qui dit, d'une certaine manière, croissance, décroissance, ça nous a fait perdre 15 ans, cette histoire.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, on continue à réfléchir dans le même schéma de pensée. C'est-à-dire qu'il y avait la croissance, ben maintenant on se dit, la solution, c'est la décroissance. Lui dit, d'une certaine manière, la grande mystification de la croissance, c'est d'avoir fait croire que, grâce à la croissance, on allait avoir tout ce que la société veut en réalité. C'est-à-dire, dit quand on pose la question à des gens, qu'est-ce qui fait pour vous le bonheur ? C'est la santé, c'est les liens sociaux, c'est l'éducation. Et aujourd'hui, on a tout mélangé. C'est-à-dire, on se dit, si on a la croissance, on aura tout ça. Et lui dit, bah non, si on regarde un certain nombre de pays dans le monde, par exemple aux États-Unis avant le coronavirus, il y avait encore 4 points de croissance, et pourtant le système de santé se casse la figure, l'espérance de vie baisse, les écosystèmes sont dans des états de dégradation terribles, la Californie, qui est un des états les plus riches, devient de plus en plus inhabitable, chaque année il y a des sécheresses, des feux. Si on regarde la Chine, qui a connu des taux de croissance considérables ces 15 dernières années, les inégalités ne vont pas beaucoup baisser, les écosystèmes ont été complètement dégradés, les libertés publiques ne se sont pas du tout arrangées. Donc d'une certaine manière, cette corrélation est fausse.
Alors, si ce que dit votre économiste là, ce n'est pas un plaidoyer pour la décroissance, vous appelez ça comment du coup ?
Ce que dit Éloi Laurent, c'est qu'il faut viser les objectifs directement.
Bien sûr.
C'est-à-dire la santé, l'éducation, le lien social, et faire en sorte de construire une société qui, on ne sait pas si elle aura un peu de croissance, pas de la croissance sur certains secteurs et pas sur d'autres, si elle sera un peu accroissante. Il donne aussi l'exemple du Japon.
Accroissante.
Oui. Le Japon n'a plus de croissance depuis une dizaine, peut-être même une vingtaine d'années. Est-ce qu'on considère que cette société est en train de s'effondrer ? Est-ce qu'on considère que cette société est une société décroissante ? Elle n'a simplement plus vraiment de croissance. Donc, créer cette espèce d'antagonisme permanent en disant « la croissance, non, la décroissance, non, la croissance », c'est encore une façon de créer du conflit, de créer une espèce d'arène et de ne pas se poser les questions. Qui sont les questions que les citoyens se sont posées, eux. Exactement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer le système ?
Il sort quand, le film ?
Le 24 mars. Le 24 mars.
Le 24 mars 2021 ?
Ben oui.
Ah oui, il va falloir attendre un peu.
Tout le monde veut le bonheur. Tout le monde veut le bonheur. Tout le monde veut la santé. Tout le monde. Et on ne fait rien. Et tout ce que produit l'homme, c'est systématiquement l'inverse pour y arriver. Donc je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Cyril.
C'est pas tout, mais c'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on voit les limites de notre système. C'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement, vivre en bonne santé sur une planète complètement dégradée, ça va pas être possible. On voit que malgré des politiques libérales qui cherchent à aller reprendre la croissance avec les dents, comme disait Sarkozy, l'hôpital public est en train de se déliter. Donc, à un moment, il faut quand même se poser la question et se dire peut-être que cette espèce de mantra de dire « si on a de la croissance, on va avoir tout le reste », il est plus si vrai que ça.
– La croissance pour la santé de l'hôpital, l'hôpital a été ruiné par les financiers. On a mis des financiers à la place des médecins pour diriger les hôpitaux. Total, on n'a pas pu faire face à la crise du coronavirus. On a tout arrêté. On a tout arrêté.
Sur ce point précis, par exemple, vous pensiez la même chose avant la convention ou c'est la convention qui vous a...
Ah non, ça, je le pense depuis longtemps.
Ça, voilà, ça, c'est des convictions que vous aviez avant la convention. Oui. Bon, prochaine étape, c'est septembre, donc la réponse de la convention à Macron. Il y a une date déjà ?
Non, ça va dépendre du moment où le projet de loi sera étudié par le gouvernement et l'Assemblée. Parce que la réponse doit se faire de façon substantielle sur pas simplement des déclarations d'intention. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec les ministres, un ministre dit ci, un ministre dit ça. Moi, j'ai eu des conversations avec l'Élysée après les sorties de Bruno Le Maire en disant « Attendez, qu'est-ce qui se passe là ?» Et on m'a dit « Non, mais ça n'engage que Bruno Le Maire. Bon, »
Attendez, le maire qui, effectivement, s'était déclaré dans cette émission avec Bourdin, s'était déclaré opposé à l'interdiction de la pub pour les véhicules polluants, c'est
exactement
bien ça, les SUV.
Et donc à un moment, moi j'ai eu une conversation avec eux en leur disant « Excusez-moi, mais on a un contrat, le président de la République s'est engagé sur 148 mesures, donc est-ce que tous les ministres vont arriver avec des jokers les uns derrière les autres dans chaque émission ou ça se passe comment ?» Non, ça n'engage que les ministres, on n'était même pas prévenus. Donc ce qui fera en gros…
– C'est l'Élysée.
– Oui.
Et l'Élysée, c'est Emmanuel Macron ou c'est certains de ses conseillers ?
C'est le secrétariat général de l'Élysée.
Le secrétariat général, Alexis Kohler ?
Non, enfin, en l'occurrence, c'était Anne de Bézère. L'idée, c'est de juger sur pièce. Donc, ce qu'on veut, c'est pas que chacun vienne s'exprimer dans les médias pour dire une chose ou une autre, c'est voir ce qu'il y aura dans le projet de loi, ce qui va effectivement passer au Conseil de défense écologique et donc qui pourrait faire l'objet d'applications réglementaires directes, et ce qui sera effectivement engagé comme procédure référendaire d'ici la fin de l'année.
– Et là, et là-dessus, sur ce qui va passer dans le projet de loi, vous avez des assurances sur septembre ?–
Non, et Jean Castex a dit l'automne. Et donc là, moi, mon inquiétude du moment, c'est que le projet de loi soit repoussé, puisque j'ai eu vent de la possibilité que le projet de loi soit présenté à l'Assemblée nationale en 2021.
– Alors, septembre, l'automne 2021.
C'est-à-dire que là, en gros, ils sont en train d'arbitrer. Ils sont en train d'arbitrer sur les différents projets de loi qui vont être présentés à la rentrée. Et si j'ai bien compris, l'arbitrage a été fait en faveur de la loi contre les séparatismes plutôt que la loi de la Convention citoyenne.
La loi contre les séparatismes qui est sortie de la poche il y a deux jours dans la déclaration d'intention de Jean Castex.
Ça me paraît pas tellement acceptable. Donc, si ça se confirme, nous aurons l'occasion de nous exprimer sur le sujet.
Qui vous laisse penser que ça pourrait que la loi sur les séparatismes pourrait avoir la priorité sur...
Un certain nombre de députés ont eu vent de cette possibilité-là.
OK. Écoutez, on suivra. On suivra de près. Très bien. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission, qui est donc la dernière de nos émissions de la saison 2020. À partir de la semaine prochaine, nos traditionnelles émissions d'été, cette année sur le thème du confinement. Qu'est-ce qu'il faut retenir du confinement? Qu'est-ce qu'il faut en garder? Quelles sont les expériences négatives dans tous les domaines? L'enseignement, la création, l'information, voilà. Des émissions extrêmement instructives et ça commence la semaine prochaine avec une belle surprise. Merci Juliette, dont c'est le dernier plateau d'Arrêt sur Image puisque vous allez voguer vers d'autres horizons professionnels.
Absolument.
Voilà, merci pour tout.
Bah,
et
merci, pareil.
Et bon vent à vous. et à la semaine prochaine.